Hello, je suis Caroline, fondatrice de Bonjour Ma Nouvelle Vie. Après plus de 12 ans en tant que décoratrice d'intérieur, coloriste et avant ça prof d'anglais, j'accompagne aujourd'hui les femmes passionnées de déco à lancer leur business de décoratrice d'intérieur pour qu'elles vivent pleinement de leur passion, qu'elles se sentent libres et épanouies et osent rêver grand. Si tu es à la recherche de davantage de compétences sur le métier de décoratrice, de retour d'expérience, de conseils business, si tu veux booster ton mindset pour révéler ton plein potentiel, alors tu es au bon endroit. Si en plus tu as besoin d'une bonne dose d'énergie, de motivation, de bienveillance, si tu as envie de passer à l'action, alors définitivement ce podcast est fait pour toi. Tu retrouveras mes formations et mes accompagnements business sur mon site www.bonjourmanouvellevie.com. Allez, on est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute! On est parti pour l'épisode 78, déjà. Le 1er mai 2012, naissait ma toute première entreprise. Et oui, ça fait déjà 12 ans. 12 ans d'entrepreneuriat non-stop. 12 ans d'entrepreneuriat, ça veut aussi dire 3 business différents les uns des autres, 3 business dans 3 pays différents aussi. Et ça veut aussi dire beaucoup de challenges, beaucoup de doutes, pas mal d'erreurs. Et puis aussi, on ne va pas l'oublier, quand même, beaucoup de réussite, bien sûr. Je sais que je suis passée par plein de choses, plein de difficultés, de doutes aussi. Et j'ai appris, du coup, tout autant de leçons à partir de tout ça. Donc, je me suis dit que pour cet épisode anniversaire, pour moi, 12 ans d'entrepreneuriat pouvaient bien donner 12 leçons que j'avais envie de vous partager. Donc voilà, c'est l'épisode du jour. Je vous partage 12 leçons que j'ai apprises au cours de ces 12 années d'entrepreneuriat. Même si en vrai, je pense qu'il y en a encore plus, mais en tout cas, c'est les 12 qui me sont venues spontanément. Leçon numéro 1, je n'ai aucune raison d'avoir peur et de m'inquiéter de la concurrence. Je pense que je vous l'ai déjà raconté, peut-être même plusieurs fois, mais j'ai démarré mon activité au Luxembourg, donc il y a pile 12 ans, avec aucun carnet d'adresses. Et la première action forte que j'ai faite, c'était de partager un stand sur un salon de l'habitat avec une autre décoratrice intérieure. J'aurais pu avoir peur d'elle et me dire qu'elle allait me faire de l'ombre, parce qu'en fait, elle avait quand même un peu plus d'expérience que moi et puis un nettement meilleur réseau que moi. Mais en fait, on a décidé d'unir nos forces, de mettre en commun nos idées, de surfer sur nos différences et d'avoir pleinement conscience qu'on était chacune de nous unique, qu'on avait des personnalités différentes. Elle, typiquement, elle était plus côté rénovation, gros travaux. Moi, à l'époque, beaucoup plus déco, déjà les couleurs, même si j'étais pas coloriste à ce moment-là. Et notre style n'était pas du tout les mêmes. Notre façon de parler n'était pas les mêmes. Notre façon de bouger, notre façon de nous exprimer, notre façon d'être tout simplement. Nos personnalités étaient très différentes. On s'est profondément respectées l'une l'autre et ça a fonctionné. On a eu toutes les deux des clients à l'issue de ce salon qu'on a réussi à se partager comme une évidence. En fait, je me souviens, je pense qu'on avait quelque chose comme 6 projets qui ont découlé de ce salon chacune. Et en fait, assez naturellement, on s'était dit, ce client-là, il est plus pour toi, ça fait plus de sens. C'était une évidence, une logique flagrante. On a continué plusieurs années après à collaborer, à s'entraider. On a fait des projets en commun, des ateliers, des événements en commun. Donc ça peut être un chouette conseil de ne pas avoir peur de la concurrence. Et je sais que c'est pas fréquent de ne pas en avoir peur. Mais si tu trouves quelqu'un d'ouvert d'esprit qui ne craint pas de collaborer, en qui tu vois quelque chose, une relation très saine, vraiment très équilibrée, voilà comme une partenaire et non pas comme une concurrence. Et moi, mon meilleur conseil, ça serait de foncer parce que j'ai appris que cette concurrence n'avait pas de raison d'être une inquiétude. Et exemple différent, mon deuxième exemple comme quoi je n'ai pas à avoir peur de la concurrence, c'était en Islande où ma concurrence était très très différente de moi. En Islande, les décoratrices d'intérieur, les archis d'intérieur utilisent beaucoup les mêmes matériaux, sont dans les mêmes gammes chromatiques, plutôt beige, gris, noir, blanc, etc. J'aurais pu avoir peur de cette concurrence très très cohérente et me dire « Oh là là, il faut que je me fonde dans le moule, sinon je ne vais pas plaire aux clients, tout simplement. » En fait, j'ai décidé de prendre le contre-pied. Et j'ai complètement assumé mon positionnement. J'ai annoncé clairement, si tu veux un intérieur noir et blanc, sous-entendu comme ce que font les autres, c'est pas la peine de m'appeler. Alors, je ne l'ai pas dit aussi cash, mais c'est quand même ça le message que je passais. Et donc les clients qui m'appelaient ou qui venaient me voir me disaient « Ah, enfin quelqu'un qui met des couleurs ». Clairement, je ne plaisais pas à tout le monde, mais en fait, je n'ai jamais eu peur de cette concurrence qui était si différente de moi et j'ai accepté de ne pas le ressembler et de rester fidèle à ce que moi je croyais, ce qui me faisait kiffer. Donc, c'est ça aussi la concurrence, c'est ne pas en avoir peur, ni dans un sens quand on est très proche, ni en sens contraire, et de savoir se distinguer. Leçon numéro 2. C'est ok de douter. Et c'est ok de ne pas savoir, que je ne sache pas où je vais très clairement. Il y a eu des moments où j'avais une vision assez claire de mon business. Mais parfois, et bien plus souvent d'ailleurs, j'en ai pas eu. Et en fait, je me dis maintenant, c'était ok de ne pas trop savoir où j'allais. Alors, je ne te dis pas que c'est bien quand même. Je pense que c'est quand même vachement plus intéressant de savoir vers où on va, de ne pas naviguer en aveugle. Mais c'est complètement ok de ne pas être sûr de la direction à un moment donné. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Ce n'est pas ça qui fait de toi une mauvaise décoratrice d'intérieur et une mauvaise entrepreneur. Donc, si aujourd'hui, tu ne sais pas trop où t'en es, si tu n'as pas fixé tes objectifs de façon très très claire, c'est pas grave, c'est qu'une étape. Ça ne dit rien de l'avenir de ton business. Évidemment, je te conseille d'y travailler et de tout faire pour que ça soit le plus clair possible. Mais c'est pas grave à un moment donné de ne pas savoir. Les choses s'éclaircissent au bout d'un moment. Savoir demander de l'aide, autre leçon aussi pour venir éclaircir un petit peu tout ça, mais c'est ok de douter et de ne pas savoir où on va. Troisième leçon, j'ai en moi plein d'idées et plein de ressources. Franchement, je crois que je me serais jamais dit ça il y a 12 ans quand je me suis lancée. Et c'est vraiment quelque chose que m'a appris la vie entrepreneuriale. Ce que la vie entrepreneuriale m'a appris sur moi. Et je sais aujourd'hui que je peux repartir de zéro, je peux tout recommencer et que j'y arriverai. Je sais que je sais rebondir. Et en fait, vraiment, ce n'était pas une connaissance que j'avais de moi à l'époque. Et c'est vraiment la vie entrepreneuriale qui m'a prouvé par A plus B que j'avais ces ressources en moi. Évidemment, des gros événements comme la pandémie où j'ai dû faire des changements radicaux dans mon business en très très peu de temps m'ont aussi prouvé que je savais me challenger, je savais comprendre le contexte économique, je savais m'adapter. Et en fait, aujourd'hui, je suis confiante sur le fait que je peux créer. Je peux générer mes propres ressources. Je peux imaginer mes propres solutions. Même s'il y a quelques mois, je ne les connaissais pas, ces solutions-là. En fait, si je sais trouver les meilleures réponses pour moi. Je suis ma propre experte, l'experte pour mon business. Et donc, si c'est vrai pour moi, évidemment, c'est vrai aussi pour toi. On a beaucoup, beaucoup trop tendance, je trouve, à sous-estimer notre pouvoir, notre résilience, notre capacité d'adaptation, nos bonnes idées. Et souvent, c'est juste parce qu'on ne s'autorise pas à tenter les choses. On ne s'autorise pas à risquer d'échouer. Mais en fait, le risque d'échouer, il n'est pas très très grave. C'est bien plus grave, je trouve, de ne jamais rien faire. Ça crée des traumatismes. Finalement, les fois où je me suis plantée, j'ai rebondi derrière. Donc, ce n'est pas des traumatismes, ce n'est pas des problèmes. Et je me dis que si on n'essaie pas, de toute façon, on a 100% de chance de ne pas y arriver. Alors, essaye, et le pourcentage de chances d'y arriver va être beaucoup plus grand que juste de ne pas tenter les choses. Et ce que j'ai appris aussi lié à ça, c'est qu'être averse au risque n'a jamais été la bonne réponse. Parfois, j'ai un exemple où j'ai voulu déléguer au Luxembourg. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps pour... j'avais vraiment cette peur énorme de le faire. Et en fait, c'est quand j'ai eu pendant un an quelqu'un avec moi, ça a été la plus belle expérience de ma vie. Donc voilà, ne jamais sous-estimer les choses qu'on peut mettre en place et me dévaloriser, ne pas me faire confiance, n'a jamais été la bonne réponse. La réponse en fait n'est pas si tu peux le faire, c'est quand est-ce que tu vas le faire et comment tu vas le faire. Donc voilà, à un moment, c'est vraiment une confiance en soi à mettre en place. C'est des belles paroles, hein. Je sais que c'est très très loin d'être aussi facile. Mais n'empêche qu'en 12 ans d'entrepreneuriat, j'ai eu ces preuves-là. Qu'en fait, quand je voulais quelque chose très fort, j'ai toujours réussi à le faire. Et que quand je me disais, est-ce que je vais y arriver? En fait, c'était une mauvaise question. C'était, qu'est-ce que je fais pour que ça marche? Quatrième leçon que j'ai apprise... le métier de décoratrice d'intérieur, c'est beaucoup, beaucoup de relationnel. Et en fait, c'est surtout des belles histoires humaines. Je pense que j'ai longtemps cru que pour être une bonne décoratrice d'intérieur, il fallait que je sois experte surtout, qu'il fallait que je sois incollable. D'où le fameux syndrome de l'imposteur à mes débuts, comme j'imagine que tu ressens toi aussi. Mais en fait, l'erreur... Oui, bien sûr, hein, il faut être compétent, il faut avoir une formation, il faut avoir des connaissances qu'on maîtrise, évidemment. Mais pour moi, ce qui fait qu'on réussit, c'est nos valeurs humaines, c'est la relation qu'on tisse avec le client. C'est tout notre savoir-être bien plus, enfin, en plus de nos compétences de décoratrice d'intérieur. Et je me dis qu'avec avec les clients, si la relation est bonne, si elle est honnête, si elle se fait en toute confiance, un client excusera toujours un manquement, il excusera toujours d'avoir fait une erreur, de devoir gérer un problème. Et c'est pour ça que cette relation avec le client est aussi importante. Et c'est pour cette relation que le client nous choisit, nous, individuellement, plutôt qu'une autre décoratrice d'intérieur. Je ne pense vraiment pas qu'un client nous choisisse pour un tarif, ça fait partie de ce qui penche dans la balance. Oui, il nous choisit peut-être pour un style aussi, mais bien plus que tout, il nous choisit pour qui on est en tant que personne, pour la relation qu'il va avoir envie de vivre avec nous. Donc si tu doutes de ta légitimité, reviens à tes valeurs humaines et à ce que tu peux vraiment apporter à un client. Repense aussi peut-être à ton précédent métier. Moi, c'était le cas. En fait, j'ai pris conscience que quand j'étais bonne prof, en fait, pourquoi j'étais bonne prof? C'est parce que j'avais une chouette relation avec mes élèves, que je savais les mettre en confiance, que je savais les rassurer en leur expliquant plein de choses. Ben en fait, c'était pareil en tant que décoratrice. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai appris. C'est que ce qui a fait de moi une bonne décoratrice, c'est avant tout la relation avec mes clients. Et en plus, c'est vrai aussi avec les artisans, avec les fournisseurs. J'ai toujours eu des très chouettes relations avec eux. Et je pense que ça, c'est pas tant parce que j'étais bonne techniquement. En vrai, je suis très loin d'être la meilleure décoratrice, pas du tout, du tout. Mais parce que ils savaient qu'avec moi, ce que je disais, je le faisais. Parce que les promesses que je faisais, elles étaient tenues. Parce que j'étais fiable. Et ça, ils étaient en confiance. Les clients étaient en confiance. Les artisans, les fournisseurs étaient en confiance. Et moi, du coup, j'étais en confiance. Et c'est ça qui fait qu'on réussit. C'est vraiment la leçon, en tout cas, que j'ai apprise. C'est ce qui fait qu'on réussit. C'est en grande, grande partie... la relation qu'on établit avec nos partenaires, clients et partenaires. Cinquième leçon, être décoratrice et entrepreneuse, c'est beaucoup de liberté, mais que je peux très très vite devenir mon pire bourreau. Donc, c'est beaucoup de liberté parce qu'effectivement, j'ai pas de contrainte horaire. Les vacances, je les prends quand je le décide. Si j'avais des enfants malades, bah, évidemment, c'était OK. J'annulais mes rendez-vous. Donc, cette liberté était géniale. J'ai toujours eu un business qui a suivi mon rythme de vie. Entre des enfants en bas âge où je voulais mettre ma fille que 2 jours en crèche, bah, je ne travaillais que 2 jours par semaine à ce moment-là. C'est pareil, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais j'étais à toutes les sorties d'école. À l'inverse, je pouvais bosser les week-ends parce que ça m'arrangeait. Je pouvais bosser aussi de chez moi en pyjama si j'en avais envie. J'ai aussi même plus, de façon encore plus flagrante, changé de pays quand je le souhaitais parce que j'avais cette liberté et j'avais aucun compte à rendre à qui que ce soit. Mais en fait, la leçon que j'ai découvert à mes dépens, hein, je dois bien l'avouer, c'est que sous couvert de cette liberté, je me suis mise aussi beaucoup de pression à moi-même et que j'avais pas l'obligation de m'arrêter. En fait, je décidais de tout. Et donc, du coup, fréquemment, ça m'arrivait régulièrement et encore aujourd'hui, malheureusement, le surmenage me guette toujours. Donc voilà, même 12 ans plus tard, hein, même si j'intellectualise que j'ai appris la leçon, bah finalement elle n'est jamais évidente. J'ai toujours vibré à fond pour mes business, mais j'ai aussi toujours trouvé très très dur de fermer la porte de mon bureau. Aujourd'hui j'en ai même pas de porte, hein, vu que je suis carrément sur ma table de salle à manger, donc c'est bien pire pour fermer l'ordinateur. C'est très dur de l'éteindre. Donc je suis toujours en apprentissage sur ce sujet-là, hein. C'est toujours un point de fragilité chez moi, ça c'est sûr, je me surveille en permanence, j'ai un petit mari qui me surveille aussi beaucoup beaucoup sur ce sujet-là. Donc mon conseil, ça serait de missionner quelques personnes autour de toi, ça peut être un conjoint, ça peut être des enfants, ça peut être quelques amies bienveillantes, pour te servir de garde-fou, et puis surtout, écoute les messages de ton corps pour que voilà, tu ne deviennes pas ta pire bourreau et sous couvert de liberté, que ton business ne devienne pas presque des fois une nouvelle prison de laquelle tu ne saches plus t'échapper. 6e leçon, je ne peux pas attendre d'avoir tout sécurisé, d'être sûre à 100% de ce que je fais, d'avoir tout verrouillé pour me lancer. Je le dis souvent d'une autre forme, mieux vaut fait que parfait. J'adore aussi l'expression saute et le filet se construira. Je l'ai clairement expérimenté professionnellement, mais l'exemple le plus marquant de ma vie, là où j'ai appris cette leçon le plus, c'est vraiment avec mon déménagement en Islande. On a tout plaqué. Honnêtement, très peu de choses ont été sécurisées, à part on avait une maison, on avait des écoles. Un peu d'argent de côté, mais en fait il n'y a rien eu d'autre de sécurisé. Et donc globalement on a tout plaqué sans savoir où on allait pour de vrai, ce qu'on allait faire professionnellement. On n'avait pas de relation, on n'avait rien. Et on s'est souvent dit que si on avait su par quoi on serait passé, tout simplement par tous les états d'âme, toutes les difficultés, tous les doutes par lesquels on allait passer, on ne l'aurait jamais fait. Donc c'est pour ça que la leçon que je retiens aussi de tout ça, c'est de ne pas chercher à tout sécuriser. En fait, on n'y arrive jamais. Donc bien sûr, sécurisons 10-20% d'un projet, hein, il ne s'agit pas de foncer bêtement tête baissée. On ne peut pas faire n'importe quoi, a fortiori quand on a des enfants, on a toujours des factures à payer à la fin du mois. Mais je me rends compte que c'est parce que j'ai osé me lancer en ayant finalement parfois assez peu de certitudes, qu'en fait, j'ai vécu les plus belles aventures entrepreneuriales. Et puis, entrepreneuriales et personnelles, hein, parce que l'Islande, ça a quand même été l'aventure de ma vie. Donc voilà, donc vraiment la leçon que moi j'ai apprise et que je te transmets aujourd'hui, c'est lance-toi, même si rien n'est sûr, même si tu n'es pas sûr du succès, il faut se lancer, parce que si on attend d'être sûr à 100%. En fait, on ne le fait jamais. On ne saura jamais verrouiller les choses à 100%. Leçon numéro 7. Mes offres, mes projets, ma façon de travailler, tout ce que je fais, en fait, change en permanence. Alors, Oui, j'ai eu des templates, et j'ai toujours des templates de devis, de factures, j'ai des templates pour mes études chromatiques. Mais la vérité, c'est qu'en fait, ma façon de travailler et de présenter mes projets, elle change hyper, hyper souvent. Et à certains moments, j'ai cru que je tenais une réponse. J'ai cru qu'il fallait, enfin, que j'avais besoin de savoir exactement ce que je voulais. J'ai cru que mes offres, mes textes sur mon site internet, ma façon de procéder, ma façon de présenter les projets, que j'avais une réponse et que j'avais cette conviction que voilà, ça y est, ça, j'en changerai plus jamais. Et en fait, bah, pas du tout. Ça s'est jamais passé comme ça. Et du coup, en 12 ans, j'ai compris que rien n'était gravé dans le marbre. J'ai compris que là où j'étais à T0, et ben à T plus un an, c'était pas du tout au même endroit, plus 3 ans, encore moins, et évidemment 5 ans plus tard, il n'y avait rien à voir. Donc c'était aussi le message en fait de me dire lâche-toi la grappe, dis-toi que ce que tu mets en place aujourd'hui, bah, c'est chouette pour toi, c'est la meilleure réponse à tes zéros, mais que tu vas évoluer, que tu vas apprendre, tu vas être influencé par tout ce qui se passe autour de toi. Il y a plein de choses qui vont changer et que du coup tu vas retravailler tout ça. Donc vraiment, cette leçon, je trouve qu'elle est importante. Oui, on a des réponses à tes zéros. On essaye en tout cas d'en avoir, mais que ça va changer. Et dès qu'on s'autorise, enfin qu'on prend conscience que ça va changer inéluctablement, ben c'est pas grave. On se dit, ok, mes textes de site internet, je les lance comme ça, et puis ben, je viendrai les retravailler quand moi j'aurai évolué. Et finalement, c'est quelque chose d'hyper positif d'avoir besoin de retravailler ces signes que tu grandis, que ton business grandit avec toi, et que du coup, ben, les choses sont en permanence en mouvement. Et c'est pour ça que tu deviens, entre guillemets, la meilleure version de toi-même. Ton business grandit, s'adapte, devient de plus en plus pertinent, de plus en plus riche, que les clients bah, changent eux aussi parce que tu attires à toi des clients nouveaux et donc le business grandit. Donc voilà, donc cette leçon de oui, les choses vont changer et que tu vas être obligé de toujours tout retravailler, mais que c'est complètement OK. Leçon numéro 8, je ne baisse pas les bras, même si les résultats ne sont pas ceux que j'espérais. Bah, meilleur exemple, Instagram. Je me dis régulièrement, mais qu'est-ce que c'est pénible de poster régulièrement, de se creuser la tête, d'avoir le sentiment qu'on n'a quand même pas beaucoup de bénéfices, enfin, sous les yeux en tout cas, qu'on n'a pas forcément les clients qui arrivent. Je trouve ça vraiment pénible. Mais pourtant, je sais maintenant aussi, après toutes ces années, pour l'avoir vécu plein de fois, que les résultats arrivent au moment où je m'y attends le moins. Je pense qu'on passe forcément par des périodes creuses, des moments où le téléphone ne sonne plus, mais qu'en fait, rien n'est définitif. Je trouve que j'ai appris vraiment que les choses, c'est pas parce que mon téléphone ne sonne pas pendant 2 mois que j'ai mal fait les choses. C'est qu'il y a des timings qui fonctionnent pas bien et que même ces périodes de doute, ça ne dure pas. Donc ça dure pas en positif, hein, ça veut dire que bah, c'est pas parce qu'à un moment on croule sous le travail qu'il faut arrêter ses efforts, parce que ça peut aussi s'arrêter, mais à l'inverse, ça ne dure pas dans le négatif. À partir du moment où on est aussi dans les actions qu'on cherche à se challenger, vraiment la leçon, c'est pas parce qu'à T0, les résultats ne sont pas bons, ou que tu as voulu lancer une nouvelle prestation, mais qu'elle ne trouve pas son public pour le moment, on ne renonce pas au bout de 3 mois de test. Vraiment, la leçon, c'est on est sur un marathon et pas un sprint, donc on ne s'arrête pas à la première des confitures. Et voilà, je sais que ça peut régulièrement ficher un mauvais coup au moral. C'est jamais évident à gérer, mais vraiment rien n'est enfin, quand c'est négatif, quand on a l'impression que ça ne se passe pas bien, ça va aller mieux. Et voilà, faire confiance aussi en l'avenir, quand on a planté plein de petites graines, ça finit toujours à germer, ça finit toujours par donner des belles fleurs, et c'est pas au moment où je m'y attends, forcément. Leçon numéro 9. je dois toujours, toujours continuer de me former, à me documenter, à apprendre, à me challenger. Alors au départ, quand j'ai appris cette leçon, c'était plus dans des domaines de déco. J'ai toujours su que j'aimais beaucoup les couleurs. Au début, j'ai pensé que ce que j'avais appris dans ma première formation suffirait. Au bout d'un moment, je me dis non, mais en fait, ça suffit pas du tout, du tout. Ce que je fais n'est pas du tout assez précis. Donc voilà, c'est là que je me suis dit ok, il faut que je me forme et que j'ai fait cette double formation en tant que coloriste. Je me suis rendu compte à un moment que j'avais besoin de me former plus en éclairage. Plus récemment, je me suis énormément formée en marketing, en communication. J'ai appris ce qu'était un freebie, j'ai appris comment faire des tunnels de vente. Là, en ce moment, je suis en train de me dire qu'il faudrait vraiment que je me penche sur l'intelligence artificielle. Ça fait partie de notre vie. Donc là, c'est vraiment les choses sur lesquelles je suis en train de me documenter, de me challenger aussi. Et en fait, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas à certains moments et on se doit d'y mettre un moment, un peu d'énergie pour que tout ça devienne de plus en plus familier. J'ai appris au fur et à mesure plein de stratégies business et en fait, je me dis qu'une bonne leçon aussi, et ça je continue à le mettre en place, j'essaye de rester à l'écoute sur ce que font les autres. Pas forcément les autres décoratrices d'intérieur, hein, d'ailleurs, ou pas forcément même aujourd'hui d'autres formatrices, d'autres coachs, dans plein de domaines différents. Je suis toujours très très inspirée par d'autres entrepreneurs. J'écoute ce que font les autres et je prends des notes. Et après, j'essaye potentiellement de tester moi-même. Bref, tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'il ne faut, ce que j'ai appris, c'est vraiment ne jamais me reposer sur mes lauriers. Et que si je veux rêver de plus en plus grand, bah faut aussi que je continue à me documenter, à apprendre, à oser tenter des choses. Ça marche ou ça marche pas, mais n'empêche que je suis plus riche année après année de compétences nouvelles. Leçon numéro 10, je dois parler de moi tous les jours. Ça paraît un peu égocentré dit comme ça, mais finalement, c'est quand même ça. C'est pas que je suis devenue complètement nombriliste en 12 ans d'entrepreneuriat, mais ce que j'ai compris, c'est que je devais dire aux autres ce que je faisais et au plus de personnes possible. Alors bien sûr, je pense qu'il faut le faire avec sa personnalité, évidemment de façon très respectueuse de nos valeurs, de notre éthique, etc. Mais en fait, ce que j'ai vraiment compris, c'est que tout ça paye. C'est parce que spontanément, j'ai dit à ma coiffeuse que j'étais décoratrice d'intérieur, qu'elle a pensé à une amie et qu'elle en a parlé à son amie, etc. Donc vraiment, ça a été au début beaucoup, beaucoup de violence de devoir oser dire ce que je faisais, oser parler de moi, oser me mettre en avant quelque part. Mais la leçon, c'est vraiment, on n'a pas le choix que de mettre un peu sa timidité sous le tapis, son sentiment d'illégitimité, le syndrome de l'imposteur. Bah ouais, on y passe toutes, mais on n'a pas le choix que d'y aller quand même. Et donc, oser parler de soi tous les jours. C'est une image, hein, tous les jours, on est bien d'accord. Mais en fait, d'avoir à l'esprit qu'on a besoin de parler de nous en permanence. Leçon numéro 11, la confiance en soi grandit avec le temps. Et j'ai compris aussi que la confiance en moi allait grandir grâce aux actions que je menais. En fait, j'ai longtemps cru que la confiance en moi allait venir naturellement. Et en fait, je me suis dit non, en fait, enfin, ce que j'ai compris, c'est que la confiance en moi allait venir parce que je faisais les choses alors que j'avais pas confiance en moi. En fait, aujourd'hui, si j'ai plutôt une bonne confiance en moi, hein, c'est pas sans être prétentieuse, mais je pense que j'ai effectivement une assez bonne confiance en moi, malgré tous les doutes qui pointent le bout de leur nez, c'est parce que j'ai fait les choses même quand je n'avais pas confiance en moi. Même aujourd'hui, hein, lancer un projet alors que je n'ai pas 100% confiance en moi, c'est ça qui fait que la confiance arrive. Et c'est ça qui fait que ma confiance grandit. Donc en fait, la leçon que j'ai apprise, c'est de lancer les choses, de lancer des projets, même quand je ne suis pas sûre de ce que je fais à 100%. Un dernier exemple à vous transmettre, c'est par exemple le groupe de Codev que j'ai lancé. Oui, j'ai travaillé énormément sur le sujet, je me suis beaucoup documentée, j'ai beaucoup lu, je l'ai vécu moi-même pendant plusieurs séances, mais la vérité, c'est que le groupe de Codev me fait encore progresser. Et qu'aujourd'hui, ça serait malhonnête de dire que je suis sûre de tout ce que je fais à 100% lié au Codev, au co-développement, au groupe de co-développement. Mais par contre, bah aujourd'hui, j'ai accepté que j'allais moi-même continuer à apprendre avec le groupe. Et que c'est l'intelligence des autres qui va continuer à me faire progresser moi. Et donc ma confiance en moi, oui bien sûr, il y a quand même plein de choses où je me dis ok j'ai confiance, mais je sais qu'elle va grandir encore, et grâce au fait de passer à l'action. Et dernière leçon que j'ai apprise, en fait je ne dégommerai jamais complètement mon syndrome de l'imposteur. Et je ne le dégommerai pas en attendant qu'il disparaisse par magie. En fait, mon syndrome de l'imposteur, il a été très très fort au début, bien sûr. Je sais aujourd'hui le calmer, je sais l'adoucir, je sais y aller malgré lui, mais il est toujours là et il peut revenir au galop à tout moment s'il y a un projet qui est plus challengeant qu'un autre. Et en fait, ce que j'ai appris surtout, c'est que c'est grâce au fait d'entreprendre, c'est tout ce que tu vas entreprendre malgré ce putain de syndrome, mais ce fichu syndrome, qu'on vient le repousser. Et en fait, la leçon, c'est qu'il faut se lancer même quand on a peur, même quand on doute, même quand on se sent illégitime. Là, je me répète un petit peu, mais je crois que c'est vraiment ça la plus grande leçon d'entrepreneuriat. C'est vraiment y aller même si on ressent ce syndrome. Et que c'est vraiment le fait de faire, le fait d'entreprendre qui vient le dégommer. On ne le dégomme, à ma connaissance, hein, en tout cas dans ce que j'ai retenu, je ne sais pas le dégommer autrement qu'en faisant des actions. Donc je crois que c'est vraiment là la plus grande leçon. Avancer malgré mes doutes, qui sont parfois très très forts, hein, très profonds, dire merde honnêtement à tous ces doutes, faire taire les mauvaises langues aussi qui font douter, et qui nous expriment leurs propres doutes, alors que franchement on n'a rien demandé et qu'on n'avait pas besoin d'eux pour faire vivre ces peurs-là, que personne ne réussit sans peur, sans erreur, sans échec, sans se planter, sans avoir un client insatisfait à un moment donné. Donc si tu es si t'es comme moi, en fait tu vas passer par là. Je pense vraiment qu'il n'y a pas d'autre solution que d'accepter de se sentir inconfortable parfois. Mais en fait, c'est parce qu'on est prête à traverser en fait toutes ces étapes qu'on est quand même sacrément fier de nous à la fin du compte. Donc je dois avouer que oui, 12 ans plus tard, je suis quand même très très fière de mes 12 années d'entrepreneuriat. Ça a révélé plein de choses que je ne savais pas sur moi. Ça a mis en avant des qualités que je ne me connaissais pas du tout, très sincèrement. Je ne savais pas que j'avais ce tempérament entrepreneurial en moi. Aucune idée. Il y a 12 ans, vous m'auriez demandé, j'aurais jamais dit ça. Donc c'est des choses qui se sont révélées. Ce qui est très la plus belle réussite, je pense aussi, c'est de voir aujourd'hui dans les yeux de mes enfants, et notamment de mes filles en fait, qu'elles sont fières de moi et que je me dis, je leur donne une jolie image aussi d'une maman audacieuse, d'une femme aussi qui a rêvé grand. Et je me dis que je prépare mes filles de la meilleure façon aussi en leur montrant que tout est possible, qu'on se plante, mais que franchement, c'est pas grave, ça ne nous empêche pas d'être heureux au final. Donc voilà. Bon, bah écoute, à toi de jouer maintenant pour venir dégommer toutes ces peurs autant que possible. J'espère que ces 12 leçons sauront t'aider. Franchement, c'est beaucoup de spontanéité cet épisode, même si j'avais préparé ces 12 leçons, mais en fait, je me rends compte que ça a été très, très spontané, vraiment à cœur ouvert. Si tu as envie d'en parler comme d'habitude, j'en serais absolument ravie. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et donc je me dis que ça a dû te plaire. Alors si tu veux me soutenir, laisse-moi un petit commentaire et des étoiles. Ça va vraiment m'aider à faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Un énorme merci d'avance.